Françoise Vergès, on a cité son nom tout à l'heure, est titulaire de la chaire Global South au Collège d'études mondiales FMSH à Paris. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université de Berkeley en Californie. Tous les diplômés ici viennent de Californie. Elle a été présidente, elle a été présidente du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage de 2009 à 2012. Françoise Vergès est également l'auteur de films et collabore avec plusieurs artistes. Son intervention intitulée « Afrique océanique » vient en quelque sorte aussi amplifier toute cette littérature que vient de nous lire Daniela Ferrière ici. Et c'est avec intérêt que j'aimerais voir cette sorte d'Afrique océanique. Nous appelons donc Françoise Vergès.
Merci à la Mambankou de faire entrer l'Afrique contemporaine au Collège de France. Alors, évidemment, depuis ce matin, je me dis que mon intervention est totalement à part. Je ne vais parler ni de la France, ni de l'Europe, ni des États-Unis. Donc, je vais peut-être sans doute vous décevoir. Je vais partir de la proposition d'Alain de parler et d'écrire l'Afrique aujourd'hui. Et comme mon panel s'intitulait « L'Amérique au miroir de l'Afrique », j'ai pensé immédiatement à l'ouvrage de Paul Gilroy, « L'Atlantique noir », et à toute la littérature sur le passage du milieu, sur le bateau négrier, comme effectivement fondement du monde moderne. Mais malheureusement, sans doute pour vous, j'ai voulu aussi parler d'une autre histoire. Toute une partie de mon travail s'articule autour du questionnement des frontières, celles qui sont subies, celles qui sont inventées, celles qui sont conquises, et qui tracent de manière forte un espace mental, qui trace pour nous un espace où s'inscrivent nos pensées, la géographie de nos pensées. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement les frontières imposées par le colonialisme et l'impérialisme, mais aussi les frontières des États-nations postcoloniaux qui eux-mêmes reconstruisent donc des frontières. J'essaye de voir comment les frontières fabriquent de l'oubli, même celles donc des États-nations postcoloniaux. Et si vous permettez d'ailleurs une incise, à propos de la cartographie de la France noire, dont on a parlé beaucoup aujourd'hui, elle ne commence effectivement pas avec l'immigration postcoloniale, comme l'a signalé Pascal Blanchard, mais dès que l'État français se lance dans la traite et l'esclavage. Et si l'on parlait aujourd'hui de la cartographie actuelle, républicaine, postcoloniale, française, elle reste une cartographie mutilée. Elle n'a pas de Kanaky, elle n'a pas de Mayotte, elle n'a pas de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane, elle n'a pas de Réunion, qui sont organisées des terres pour être dépendantes de politiques étatiques racisées qui continuent à être développées. C'est en partant, je pense, aussi de ces peuples qui parlent des terres, qui parlent des langues, qui ont des cultures, qui ont des croyances et des religions singulières, qu'une analyse réelle de la postcolonialité républicaine française, en lien justement avec les minorités racisées et discriminées dans l'Hexagone, pourra se faire. Ce que pose l'existence de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte et de toutes ces terres, ce n'est pas simplement la question d'un oubli de chapitre à ajouter à l'histoire de France, mais la question de décoloniser, de dénationaliser cette histoire, de faire éclater ses frontières, ses temporalités et ses singularités. Donc voilà, donc je me souviens, si vous voulez, il y a cela plusieurs années, lors d'un colloque à Johannesburg, j'avais proposé d'étudier l'histoire et les cultures de l'Afrique à partir de ses marges, de ses îles, et à partir de son histoire maritime, des échanges et des rencontres provoquées par les voyages sur ses mers et ses océans. Lorsque je parlais de marge, je voulais évoquer l'espace intervalle, la latitude qui existe entre des limites et qui évoque la possibilité d'action. J'étais en effet frappée par l'absence des îles dans la conception du continent et par la vision d'une Afrique entièrement tournée vers la Terre, sur elle-même, et donc enfermée dans une relation nord-sud qui faisait disparaître le transversal et les relations sud-sud. Or, ces îles, les îles Canaries, du Cap-Vert, l'île d'Annobon, l'île d'Ascension, du Mozambique, les Comores, les Mascareignes, les Seychelles, la Grande Île de Madagascar, Zanzibar, Socotra et tant d'autres, ne sont pas simplement des espaces de l'entre-deux, j'ai bien reçu la leçon Suleiman, mais de terre haut, des espaces terre haut, des espaces de terre à terre, qui sont africaines et aussi autre chose, atlantique, indo-océanique, créole, c'est-à-dire qui rappellent la présence de l'eau et du monde liquide. Si l'Afrique regardait à l'est, elle croisait l'Asie et à l'ouest, les Caraïbes et les Amériques dites latines. Depuis, l'histoire des diasporas et des présences africaines au monde a montré l'importance du passage du milieu, des circulations d'idées, de sons, d'images et de langues dans l'expérience noire au monde. et l'Europe a été analysée comme un projet singulier, lié à un univers particulier, mais toujours pas d'histoire de l'Afrique océanique, ou plutôt de ses histoires océaniques, multiples et plurielles. « La mer et l'histoire », a écrit le poète Derek Walcott. Il faisait allusion au gris coffre-fort. « la mer les a enfermés », disait-il pour parler des Africains de la traite transatlantique. Mais ici, encore une fois, je veux évoquer d'autres histoires de l'Afrique océanique. Car au-delà de l'étude des textes européens sur la navigation, sur les tempêtes, les populations hostiles, les sociétés côtières, tout ce qu'ils découvrent, tout ce qu'ils fantassent, ou les textes arabes, hindous et chinois, je veux parler aussi, je veux tracer une autre cartographie de l'Afrique océanique. L'étude de l'Afrique océanique permet, d'une part, de décontinentaliser l'écriture de l'histoire, d'ouvrir le continent à ses mers et à ses océans, de l'inscrire dans une histoire connectée, dans une histoire globale, où mer et océan jouent un rôle, de questionner une temporalité qui inscrit la traite transatlantique comme le début des relations du monde africain avec l'Europe. Elle met en lumière des processus de créolisation qui précèdent ce que l'on trouve ensuite dans les sociétés créoles issues de l'esclavage. Je pense ici aux cultures swahili, qui de la côte Est se répandent dans l'archipel des Comores et le nord de Madagascar. Toute société, nous rappelle Georges Balandier, est soumise au jeu constant de l'ordre et du désordre. Les phénomènes de créolisation, au sens de rencontres conflictuelles et fécondes, sont le produit du désordre et de l'aspiration à une certaine ordonnance du monde. Et ces processus de créolisation permettent d'étudier les traditions dans leurs impuretés. Les Afriques océaniques permettent aussi le décentrement du regard historique. Une autre histoire anthropologique qui ne se situe pas dans un face-à-face nord-sud, mais où les axes transversaux sont étudiés. Elle signale l'existence de techniques de navigation, d'architecture maritime, de peuples de l'eau dans le monde africain. Elle signale l'existence de cultures de franges, ces cultures qui ont été diffusées par les marins, les pèlerins et les marchands dans les sociétés côtières. Elle permet d'évoquer les déesses de la mer et les esprits de l'eau, si importants dans les rituels et les cultures. Elle redonne à l'Afrique une histoire de contact avec les mondes asiatiques qui précèdent de loin le contact avec la colonisation européenne. Il est impossible ici de retracer la richesse de l'Afrique océanique. Je ne vais faire simplement quelques rappels. L'histoire maritime de l'Égypte, la traversée au XIVe siècle de la mer Rouge par le roi Mansa Kankou Moussa se rendant à la Mecque. L'histoire d'en bas, des pirates, des marins, des villes portuaires, des échanges commerciaux avec le nord de la Méditerranée, avec les pays qu'on appelle aujourd'hui les pays du Golfe, avec l'Inde. Évoquer les liens de ces routes maritimes avec les routes de la soie, avec l'Asie de l'Est, l'Indonésie et la Chine. Évoquer les noms de ces grandes villes-ports africaines, véritables cités-états où le commerce était libre, Kilwa, Sofala, Manda, Lamu, Mogadiscio, et leurs liens avec les villes d'Aden, d'Ormuz, de Julfar, de Muscat, de Surat, de Kolsikode et de Malacca. Évoquer les innombrables réseaux qui se créent dans les mondes maritimes, musulmans, arméniens, juifs. Évoquer les voyages successifs de l'amiral chinois Zhang He vers l'Afrique de l'Est. Et rappeler que dès le XIVe siècle, les pays de l'Afrique de l'Est échangent leurs produits contre des cotons asiatiques, des perles, de la porcelaine chinoise, de la poterie musulmane, et qu'en 1500, le coton indien pénétrait jusqu'en Éthiopie et dans les autres pays d'Afrique de l'Est. La mer et l'océan ont ensuite évidemment compté dans l'histoire de la traite, du colonialisme et de l'impérialisme. C'est par bateau que furent déportés les captifs. C'est par bateau qu'arrivèrent les armes qui ravagèrent le continent. C'est de bateau que les troupes coloniales débarquèrent. C'est par bateau que les richesses de l'Afrique furent exportées vers l'Europe. Mais ce fut aussi l'histoire d'épopées des mers, d'esclaves devenus libres venant d'Afrique, d'échanges d'idées de liberté, de sons, de poèmes et de langues. La première vague de décolonisation a eu pourtant pour but de se réapproprier la terre, de réaffirmer la souveraineté sur la terre natale, identifiée comme source de la vie, de l'identité et de la nation. Ce biais nous a conduits à négliger l'Afrique océanique. Notre tendance à considérer la terre comme le seul lieu des échanges, des conflits et des tensions nous a fait oublier l'histoire des mers et des océans, des enjeux environnementaux, économiques, militaires, scientifiques et culturels. Et nous avons laissé l'histoire des mers aux hommes et aux militaires blancs. La mer est demeurée un champ hautement masculinisé du monde du travail, de la sexualité, de l'identité et des conflits. Pourtant, les mers sont toujours aussi importantes à notre compréhension du monde et de la globalisation néolibérale. Et nous assistons à un nouvel âge du monde des mers, un espace toujours dominé par l'alliance entre l'armée et la science. Je vais donner aussi maintenant, merci, quelques chiffres, ça plaira à Célestin. 90% du commerce mondial se fait par voie maritime. 99% du trafic intercontinental, données et téléphones, qui sont si importants pour nous, sont transmis sous les océans. L'enjeu stratégique et politique est immense. D'immenses ports sont aujourd'hui construits sur le continent africain pour multiplier leurs capacités et pour faire transporter, évidemment, de nouveau avec des routes les richesses. Cela menace l'environnement, la vie des sociétés côtières, les communautés de pêcheurs. Les richesses de l'Afrique continuent à être exportées par bateaux entiers. Les enjeux économiques et scientifiques sont aussi importants que la compétition entre puissances ne peut être sous-estimée. On ne le sait pas, on ne s'intéresse pas à la mer, mais il y a plein de... Toutes les eaux qui bordent le continent africain sont au cœur aujourd'hui de ces enjeux. Pour revenir à mon introduction, il y a eu plusieurs programmes et projets d'études, malgré tout, sur l'Afrique océanique. Je pense au projet de recherche au Corridor of Cities que j'ai mené avec Sarah Nuttall et Abdul Malik Simone. Sarah Nuttall a justement étudié la circulation des littératures dans l'océan Indien, les écritures sur l'eau, Writing on Water. Et j'avais étudié la biographie des restaurants chinois dans les villes-ports de Durban, de Maputo, de Dar es Salaam et de Port-Louis, pour justement montrer qu'il y avait autre chose que des diasporas qui étaient passées par le nord et qui étaient directement des diasporas sud-sud, construisant justement des espaces d'échange et des espaces culturels. Ces restaurants chinois à Durban, Maputo, Dar es Salaam et Port-Louis témoignaient d'échanges entre l'Asie et l'Afrique qui ne passaient pas exclusivement par le colonialisme et l'impérialisme. Nous avions fait cette étude en 2002, bien avant que le rush sur l'étude des relations Chine-Afrique se passe. Nous avons privilégié les territoires créés par les échanges venus des mers. Nous pourrions parler aussi des grands fleuves et des grands lacs africains qui font avec la mer les océans qui bordent le continent, un continent qui baigne dans un espace liquide. Mais me dira-t-on, l'océan est aussi cimetière, l'espace de bones into coral, comme l'a écrit Darrell Walcott, alors n'est-ce pas toujours l'essentiel? Mais si les cimetières, peut-être alors devons-nous élaborer une pensée du monde liquide qui soit monde de la naissance et monde de la mort? Car effectivement, chaque semaine, chaque jour, et Alain le rappelait, des Africains se noient dans les mers qui bordent le continent. Après l'Atlantique, la Méditerranée est le nouveau cimetière marin de l'Afrique, comme le sont les eaux des lagons de Mayotte, département français dans le canal du Mozambique. Mais il y a aussi toujours d'autres histoires, celles des Africains qui retrouvent la mer, qui se glissent comme des petits poissons dans les eaux glacées du capitalisme global. Il est temps de redonner existence à l'Afrique océanique, de faire une critique de l'Occident qui ne soit pas exclusivement basée sur la terre. De penser l'Afrique océanique comme une source de l'imaginaire, comme la source des arts, de la musique, comme une source d'une relecture de l'Afrique qui ne soit pas une Afrique simplement fermée sur elle-même. Une Afrique debout dans les cordages, debout à la barre, debout dans le vent, pour emprunter les mots d'Aimé Césaire. En conclusion, pour contredire la masculinité dominante de l'écriture du monde maritime, je voudrais évoquer la figure de Yemanja, déesse du panthéon diasporique africain. Elle donne naissance aux eaux du monde. Elle fait surgir de nouvelles sources chaque fois qu'elle se tourne dans son sommeil. Elle fait jaillir sources et rivières partout où elle marche. Yemanja de la grande rivière, Yemanja de la grande mer, la belle dame des eaux, qu'Édouard Glissant évoquait en ces termes. Et il invoque, « ah, je mange, et il brille. » En la dé des eaux, la Yemanja née sur la mort, qui fit combat contre l'anaconda. L'Afrique océanique est archive, histoire, source de création. »